voix marseillaise. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la rue d'Aubagne à Marseille. En cette période de procès de ce jour terrible du 5 novembre 2018, où deux immeubles de la rue se sont effondrés, causant 8 morts, avec Vincent Kivy, on va la remonter et égrener les heures et malheurs de cette artère essentielle du centre-ville marseillais. Il y a quelques mois, son ouvrage « Rue d'Aubagne, Marseille, quand l'histoire d'une rue raconte la France » aux éditions du Rocher est paru. Vincent Kivy, on est ici cours Saint-Louis et donc on va s'apprêter tout à l'heure à remonter la rue d'Aubagne. Pourquoi vous avez choisi de parler de cette rue d'Aubagne ? Est-ce qu'elle a un écho avec votre vie personnelle ? Vous le dites un peu dans votre ouvrage, vous venez un peu de différents horizons, vous avez des origines un peu multiples. Voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de cette rue ?
Je me sens un peu rue d'Aubagne, je me sens un peu fait comme la rue d'Aubagne, c'est-à-dire que je suis né à Marseille et j'ai des origines multiples. Et la rue d'Aubagne, c'est ça, c'est ce mélange d'origines à la fois ethniques, à la fois religieuses, à la fois géographiques. C'est quelque chose qui est le symbole du mélange, au fond, de la mixité à la fois sociale et géographique. C'est ça qui fait la rue d'Aubagne. On peut se sentir à la fois d'ici, mais à la fois on est aussi d'ailleurs. Et que la rue d'Aubagne, c'est un peu ça, c'est ce sentiment d'être là, mais aussi de venir et de partir ailleurs.
Alors, vous parlez d'histoire, justement. Ici, il y a l'histoire locale et nationale. On trouve ces deux histoires-là.
La rue d'Aubagne et Marseille dans son ensemble, c'est au fond le reflet de la France. Hein. La France, c'est une terre d'accueil, c'est une terre d'immigration, c'est une terre de mélange ethnique, religieux, c'est une terre qui a beaucoup accueilli. Hein. Et donc, au fond, Marseille n'est que le symbole de ça. Au fond. Marseille, c'est la porte de la France, au fond. C'est là que sont venus des tas dès l'Antiquité, au fond, hein. Des tas de peuplades, des tas de populations, des tas d'individus même, hein. Manière seule, solitaire, et donc c'est la porte de la France, et donc en ce sens elle est aussi le symbole de la France, elle n'est pas cette entité à part que beaucoup de Marseillais voudraient mettre en avant, non, ça fait partie de la France et c'est la porte de la France, et en cela elle est le reflet aussi de l'histoire de France, c'est-à-dire l'histoire de ces migrations constantes, de ses arrivées mais aussi de ses départs, parce que c'est aussi un lieu de départ, hein, un lieu de départ vers l'Afrique, un lieu de départ vers l'Amérique, un lieu de départ vers l'Orient méditerranéen, donc c'est ça aussi la rue d'Aubagne, c'est ce petit bout de France au fond qui symbolise en quelques mètres, en quelques centaines de mètres, ce qu'a été, ce qu'est l'histoire de la France.
Alors les immeubles ici sont très anciens, hein, ils datent majoritairement du 18e siècle.
Oui, c'est ça, c'est une rue très ancienne, et d'ailleurs on le voit très bien, c'est qu'elle est très étroite par rapport à la rue de Rome ou par rapport au cours Lyoto qui est de l'autre côté, elle est très étroite, elle va de travers et elle monte. Toutes les rues qui ont disparu au 19e siècle, on a refait vraiment l'urbanisme et qu'on trouvait que les rues étroites et les rues qui tournent et les rues qui montent, ce n'était pas du tout pratique. Et d'ailleurs, ça ne l'était pas du tout. On ne pouvait pas se croiser. Et c'est pour ça aussi que la rue va être peu à peu délaissée, un peu, hein, face au cours Lyoto et à la rue de Rome, qui sont des grandes avenues où les gens peuvent passer, se déplacer facilement. La rue d'Aubagne, elle va être un peu délaissée, elle va être un peu paupérisée justement à cause de ça, parce qu'elle est faite de telle manière qu'elle symbolise un peu le 18e ou même le 17e siècle, voire même le Moyen-Âge un peu, et donc elle va être jugée comme impraticable presque au 19e siècle et au 20e siècle. Elle va se paupériser parce que les gens qui veulent habiter dans des endroits plus calmes, plus abordables, plus praticables, vont fuir cette rue, quoi.
Vous dites dans votre ouvrage qu'au fait, la rue qu'on voit aujourd'hui, son ambiance, rappelle un peu l'ambiance du début du 20e siècle, hein. Ça n'a pas vraiment changé. C'est un peu ça qu'on trouvait au début du 20e.
Ça a quand même un peu changé après l'effondrement de la rue du 65 et du 63, c'est-à-dire que là, elle est quand même, elle se désertifie un peu en fait. Il y a beaucoup de travaux, beaucoup d'immeubles sont du coup ont été fermés, vont être rénovés. Et donc là, depuis quelques années, elle change véritablement. C'est pour ça aussi que je dis dans le livre que pour moi, l'effondrement de 2018, c'est un peu la fin de la rue telle qu'on l'a connue justement. C'est-à-dire
c'est de la mort même.
Ouais, la mort de la rue, c'est-à-dire la mort de la rue telle qu'on l'a connue jusque assez récemment finalement, cette rue commerçante, cette rue grouillante un peu, dont on parle beaucoup au début du XXe siècle et juste dans l'après-guerre encore, elle reste cette rue très très habitée et très commerçante où les gens de Marseille vont faire leurs courses, savent trouver tel ou tel type de produits, notamment exotiques, hein, parce que ça touche le quartier Noailles qui est quand même très tourné vers les produits exotiques, vers les produits venus d'Afrique au fond, hein, ça amène comme ça, le port amène tous ces produits et du coup elle est effectivement, elle prend au XXe siècle, au cœur du XXe siècle un côté un peu exotique et un peu presque folklorique où on va faire ses courses mais aussi on va se promener un peu pour voir ce que c'est que cette vie marseillaise, ce côté un peu commerçant, grouillant que peut être la ville populaire quoi, voilà, face aux belles avenues qui se développent justement autour du port qui sont moins populaires et qui repoussent justement vers la rue d'Aubagne un certain nombre de commerces un peu plus pauvres, un peu plus voilà, un peu plus abordables et un peu plus exotiques.
Alors Vincent Kivy, je vous propose maintenant de remonter cette rue et de découvrir des lieux et des numéros de rue qui symbolisent un peu l'histoire de cette rue. On va y aller là. Bien, donc on est face au numéro 1 de la rue d'Aubagne. C'est aujourd'hui la maison Saint-Louis Hôtel. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet endroit ? C'était au milieu, je crois que c'était une salle de danse, vous le dites. Hein. Et c'est un lieu, un hôtel qui existe déjà depuis le 18e siècle, non ?
Oui, c'est ça. C'est un endroit très ancien. Alors là, la façade, elle a été rénovée, etc. etc. Mais en fait, la présence d'un hôtel au 1 rue d'Aubagne est très, très ancien, en fait. Parce que la rue est née, au fond, sur l'idée que c'était le chemin d'Aubagne. C'est-à-dire un endroit qui menait à la première grande ville en dehors de Marseille. Et du coup, c'est devenu très vite un chemin de passage. Et qui dit passage, dit hôtel, auberge. Et dans sa première configuration, la rue va abriter beaucoup d'hôtels et d'auberges. Ça va être, avant de rentrer dans la ville ou d'en sortir, on va se poser dans les auberges et dans les hôtels de la rue d'Aubagne, et celui-ci est un des rares à avoir quasiment été préservé, c'est-à-dire à avoir traversé les siècles, même pas forcément dans la configuration actuelle, mais dont on atteste au fond la présence depuis très très longtemps.
On arrive à la maison Empereur, qui est la plus ancienne quincaillerie de France.
Oui, c'est ça, c'est une de très très vieille maison. Alors elle a commencé à prospérer, en fait, elle s'est mise... Elle a commencé à exister au 19e siècle, donc au début du 19e siècle, rue des Récollets, donc qui est la rue qui prolonge la rue d'Aubagne. Et puis comme le commerce a marché fort, ils se sont installés au début du 20e siècle. Il y a eu une petite annexe qui s'est installée au tout début de la rue d'Aubagne. Alors c'est une quincaillerie qui est célèbre dans Marseille encore aujourd'hui, mais qui l'est depuis la fin du 19e siècle, hein, et qui se transmet de génération en génération. Donc c'est toujours les descendants de la même famille qui tient le commerce. Et eux-mêmes d'ailleurs, ils ont essayé de reconstituer la quincaillerie telle qu'elle existait il y a un siècle. Donc si vous y allez, vous avez un peu l'ambiance de ces quincailleries telles qu'on les connaissait au 19e siècle, et ils ont même fait un petit musée avec les instruments et les machines qu'ils vendaient à l'époque, il y a un siècle, à l'intérieur de leur commerce.
Alors là on va aller devant une autre maison célèbre à l'époque, au numéro 8, c'est la maison Camoin qui fabriquait des cartes à jouer.
Oui, c'est ça. Les cartes à jouer ont été une des industries les plus florissantes de Marseille au XIXe siècle, parce qu'ils avaient un droit spécial qui leur permettait de les fabriquer. Et du coup, s'est créé plusieurs fabriques de cartes. Et une seule a vraiment résisté et a un peu mangé les autres, c'est les établissements Camoin, hein, qui était une famille marseillaise aussi, et qui se sont donc installés au début du 19e siècle dans cette partie-là, dont on voit encore les demi-fenêtres, qui étaient en fait une espèce d'usine.
Hein, c'est-à-dire c'est là où il y a aujourd'hui une pâtisserie orientale.
Voilà, une pâtisserie orientale et jusqu'au restaurant tunisien, là,
chez
vous
Yassine.
Avez. Ouais, chez Yassine et le Carthage. Le Carthage qui est aussi une vieille pâtisserie qui est assez ancienne. Ici, en ce début de rue, vous avez quand même pas mal de commerces qui sont anciens, notamment la Murerie aussi, elle date du 19e siècle, hein, de la fin du 19e siècle. Mon bar aussi, c'est un vieux bar, bon après il y a eu changement de propriétaire, et cette épicerie aussi est très ancienne. Et donc cette fabrique de cartes avait beaucoup d'ouvriers, hein, c'était une vraie petite usine. Et d'ailleurs, le fait qu'ils soient installés là, ça a tellement bien marché qu'ils ont été obligés de développer une usine encore plus grande, et du coup ils ont été obligés de partir de la rue Baudoubagne.
Alors le numéro 9, alors je crois que c'est la naissance d'Alexandre Marius Jacob, qui est un anarchiste. Alors, il y en avait pas mal ici, hein, de militants anarchistes et libertaires qui fréquentaient les cafés, qui organisaient des réunions. Mais ici, ce personnage, donc Alexandre Marius Jacob, il a inspiré Arsène Lupin.
Il a grandi dans cette maison, au dernier étage, parce que son père était il était d'une famille très modeste. Hein. Son père était originaire d'Alsace et était marin, dans la marine marchande. Et d'ailleurs, il racontait que son père, comme il voyageait beaucoup, lui avait ramené une chèvre du Dahomey. Et qu'il vivait donc là-haut avec sa chèvre qui bouffait un peu tout et n'importe quoi, et notamment qui mettait son nez dans le poêle à charbon, et donc qui se brûlait les poils avec le poêle à charbon. Mais bon, toujours est-il que ce garçon est devenu lui-même un marin, et que ça s'est très mal passé. Il a vécu beaucoup d'injustices sur son bateau, et du coup, quand il est revenu, il a frayé avec le milieu anarchiste qui était très très présent à Marseille, notamment dans les imprimeries. Lui était un ouvrier, il est devenu ouvrier typographe. Et très vite, il a compris que son idée, c'était que en tant qu'anarchiste, pour gagner sa vie, il allait mieux prendre l'argent où il était, c'est-à-dire chez les riches, plutôt que de s'embêter à travailler comme un prolétaire. Et du coup, il a commencé effectivement une vie d'anarchiste, de voleur anarchiste, à la manière d'Arsène Lupin. Et c'est comme ça que Maurice Leblanc va s'inspirer de son personnage, parce que Jacob va devenir très célèbre au fond à la fin du 19e siècle, mais surtout au début du 20e siècle, parce qu'il va multiplier les cambriolages et multiplier les vols, et en laissant toujours un discours politique derrière lui, c'est-à-dire qu'il va laisser toujours un petit mot. Il va essayer de dévaliser plutôt les ennemis des anarchistes, c'est-à-dire les magistrats, il dévalise les magistrats, il dévalise les aristocrates, il essaie de voler les juges. Enfin, il a une vraie conscience politique qui le fait agir de manière différente, comme un cambrioleur tout à fait à part. Et surtout, ce qui va le rendre célèbre, c'est qu'il a une espèce de science du vol, c'est-à-dire qu'il se fabrique ses propres outils, ses propres armes, qui fait qu'il devient très performant en fait. C'est lui qui invente notamment le cambriolage à Paris. Il va cambrioler une célèbre bijouterie par le plafond en fait. Il va louer l'appartement du dessus, et le week-end du 14 juillet, il va creuser un trou dans le plafond, il va descendre dans la bijouterie, il va tout prendre, et il va remonter, il va repartir, et ça va être un coup que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens vont reprendre, parce que c'est jusqu'à Aix, je crois, il y a 2 ou 3 ans, quelqu'un avait fait ça aussi dans une bijouterie d'Aix. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très innovant sur le plan de l'outil et de l'observation, et notamment à l'époque, les malfrats, ils étaient hirsutes, ils avaient la barbe de 3 jours, ils étaient mal habillés, donc les policiers les repéraient très vite. Et lui, il va toujours être très élégant, très très beau, c'est un bel homme, et puis il va toujours faire attention à être toujours à 4 épingles, et donc il va pas se faire repérer au fond par les policiers. Et donc il va poursuivre comme ça une carrière de malfrat cambrioleur, de gentleman cambrioleur, hein, jusqu'à ce qu'il soit arrêté, et à son procès à nouveau, ça va être pour lui l'occasion de se faire valoir au fond, parce qu'il est très intelligent, il est très cultivé, et tous les journalistes vont être fascinés par ce personnage qui est à la fois innovant, inventif, et à la fois très brillant à l'oral, s'exprimant très bien. Donc il va être un des rares personnages à survivre à 20 ans d'Aubagne.
par là.
On est là au numéro 11 de la rue d'Aubagne. C'était le bar Frédéric. Donc c'était un bar où se réunissaient les anarchistes notamment. Et il y avait Louise Michel qui est passée ici en 1904.
Oui, c'est ça. C'est un lieu où sont passés beaucoup d'anarchistes en fait, parce que le bar Frédéric était tenu par un anarchiste. Et puis c'était l'époque, encore une fois, où au 19e et 20e siècle, le bar était un peu le lieu de sociabilité essentiel, hein, notamment dans les quartiers populaires, où on se réunissait pour boire, pour manger, par convivialité, mais aussi pour des raisons politiques. C'était comme des salles de réunion, enfin, au fond. Aujourd'hui, il y a chaque parti assez locaux, mais à l'époque, il n'en avait pas. Et du coup, on se réunissait là pour discuter, pour débattre, parfois assez violemment d'ailleurs. Hein. Ce bar Frédéric va servir de lieu à des débats très, très vifs entre différents anarchistes, entre différents mouvances de gauche. Et va passer aussi là, comme beaucoup d'autres, Louise Michel, qui effectivement est passée plusieurs fois à Marseille au cours de son existence, parce qu'à la fin de sa vie, elle va vivre un peu de ça. Elle va donner des conférences un peu partout en France, là où on l'accueille. Et elle va passer plusieurs fois à Marseille. Et d'ailleurs, elle est morte ici à Marseille.
La rue d'Aubagne, c'est aussi des moments de tragédie, la Seconde Guerre mondiale, les temps des rafles en 1943. Devant donc le numéro 13, il y avait la famille Arditi.
Il faut comprendre que la rue d'Aubagne, déjà à cette époque, ou encore à cette époque, c'est une rue où, au fond, remplie de petits logements, de petits meublés qu'on loue pour pas cher, qu'on loue rapidement, sans forcément présenter de papier, sans avoir trop de formalités à remplir. Ce qui fait que ça attire, hein, dans les années 30, tous ceux qui sont en fuite, hein, et notamment tous les juifs qui viennent d'Orient, plus précisément, fuit aussi l'expansion nazie. Hein. En 1938, il y a l'Anschluss, etc. Donc, après, il y a la Pologne. Et donc, tous ces juifs qui sont chassés de Pologne, de l'Europe orientale, viennent ici, spécialement ici. Pourquoi ? Parce que Marseille, c'est aussi la porte vers le départ. Hein. C'est aussi la fuite de l'Europe. C'est la façon dont on va pouvoir partir de l'Europe, prendre un bateau, gagner l'Amérique ou bien l'Afrique ou un lieu hypothétique, mais enfin qui reste une fuite possible pour un certain nombre de gens. Et en attendant, ces gens, avant de trouver un bateau, ils arrivent là et qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de trouver un logement pas cher, rapide, et beaucoup se retrouvent dans la rue d'Aubagne. Alors il faut savoir que Marseille, jusqu'en 1942, n'est pas occupée par les Allemands. Elle le devient à partir de novembre 1942 avec l'invasion d'Afrique du Nord par les Alliés. Donc les Allemands débarquent ici et effectivement ils poussent à traquer les Juifs en priorité. Et donc pour eux, effectivement, à partir de 1942, la vie devient très difficile. Alors ils sont aidés notamment au 11, au 13, je crois, par un pasteur qui s'appelle Jean-Séverin Lemaire et qui, comme beaucoup d'autres à Marseille, vont essayer de d'aider ces gens à trouver refuge et à survivre. Voilà. Et effectivement, en 1943, il y a une grande rafle, hein, c'est la rafle de janvier 1943, qui concerne tout Marseille, mais qui concerne plus spécialement la rue d'Aubagne, parce qu'ils savent, effectivement, les policiers marseillais savent que la rue d'Aubagne cache beaucoup de juifs sont installés là, dans ces logements justement très, très petits, très pauvres, très faciles d'accès.
Alors on va se diriger tranquillement vers le 14A. Il y avait la Comédie de Marseille, un théâtre qui date du XVIIIe siècle, où on disait qu'il y avait des mœurs légères.
14A correspondait en fait à une des sorties du théâtre qui était placée sur la place de l'autre côté. Donc c'était un espèce de long couloir qui donnait sur cette comédie, qui prenait toute la place, qui est devenue ensuite les Halles de la Croix, qui était connue à Marseille à l'époque. Et ce théâtre a eu beaucoup d'importance parce que c'était le seul théâtre au XVIIIe siècle de Marseille. à une époque où le théâtre commençait à avoir beaucoup d'importance, hein, c'est l'époque de Molière, etc. Et ça a beaucoup influé sur le caractère de la rue d'Aubagne, parce que le théâtre à ce moment-là était le lieu où on se réunissait, où se rencontraient les prostituées et leurs clients. C'est-à-dire que le directeur du théâtre laissait entrer gratuitement les prostituées, ce qui du coup obligeait les hommes à payer leur entrée pour voir les pièces, mais à la fois ils étaient là pour en réalité prendre rendez-vous avec les prostituées qui s'y trouvaient. Et c'est ce que raconte d'ailleurs Casanova, le grand séducteur, qui est venu à Marseille, et qui est venu donc rue d'Aubagne, et qui est venu au théâtre, et qui est venu trouver une prostituée. Il raconte comment ça se faisait donc à l'intérieur du théâtre. Il s'asseyait à côté d'une demoiselle qui n'était pas accompagnée évidemment, et donc il faisait commerce. Et il raconte qu'il est très étonné parce que la dame lui dit bon ben voilà, on va se retrouver après la pièce. Donc elle habitait, je crois, rue d'Aubagne. Il y a beaucoup de prostituées avec leur petit logement rue d'Aubagne où elles amenaient leurs clients après la pièce. Et lui, il raconte qu'il est très étonné parce qu'elle lui réclame des arts. Alors lui, comme il est italien, il ne sait pas ce que c'est que des arts, il ne comprend pas. Et alors on lui explique, ben non, il faut que tu payes une partie et comptant maintenant, parce que si jamais après tu en trouves une autre et que tu ne veux plus de celle-là, ben au moins elle gardera le peu d'argent que tu lui as donné là. Donc voilà. Donc il paye directement la prostituée et puis ensuite ils vont rue d'Aubagne faire leurs affaires. Et c'est pour ça que rue d'Aubagne, du coup, la rue d'Aubagne se développe au fond grâce à ce commerce-là, commerce des prostituées, mais aussi commerce des bars, où les gens qui vont au théâtre avant la représentation comme après la représentation s'éparpillent dans les bars et les auberges de la rue d'Aubagne. Et du coup, ça amène beaucoup de circulation, beaucoup de clientèle.
Ici Vincent Kivi, on est en 2024 et donc on voit des vendeurs à la sauvette un peu. Est-ce qu'on peut imaginer un peu la vie d'avant? Est-ce que c'est ça un peu aussi, il y a quelques décennies, même un siècle?
Alors il y a un siècle, les choses étaient beaucoup, beaucoup plus organisées parce que c'était une rue quand même qui est très fréquentée par toute la ville, hein, à la fois par la bourgeoisie, à la fois par les milieux populaires. Et donc c'était des commerces très installés au fond, hein. C'était des vraies boutiques, des vrais commerces, ce qui n'existe quasiment plus ici au fond qu'on regarde. Mais ça c'est aussi dû au fait que la plupart aujourd'hui des maisons sont fermées, hein. Et là on retrouve ces maisons de 2-3 fenêtres, c'est-à-dire des immeubles très anciens du 18e, du 17e parfois, et qui sont sans fondation, donc qui se tiennent les uns les autres, hein, comme ça on voit très bien, qui sont très étroits, très serrés, et qui se tiennent les uns les autres, et qui sont devenus effectivement des vrais dangers publics, et donc qu'on a fermé pour essayer de les rénover, les restaurer, et donc qui fait que les boutiques elles-mêmes ont fermé la plupart, et du coup elles se retrouvent sur le trottoir, hein. Mais ça c'était pas du tout, enfin c'était pas vraiment l'atmosphère de il y a un siècle.
C'est une autre évolution depuis quelque temps.
Voilà, c'est une autre évolution qui est née aussi de la transformation de la rue ethnographiquement parlant, quoi, sociologiquement parlant. C'est-à-dire que là, beaucoup de ces commerces sont liés à l'immigration africaine, notamment des Comores. Qui est arrivé après-guerre, en fait, dans les années 50, alors qu'avant-guerre, les migrations étaient essentiellement... on a eu beaucoup de Juifs, comme on l'a dit, mais aussi beaucoup d'Arméniens. Hein, la diaspora arménienne a beaucoup habité cette rue, encore une fois, parce que c'était des logements pas chers, et quand on arrivait ici, on pouvait trouver un logement facilement, sans papier, sans rien. Avant les Arméniens, la grosse émigration, ça a été l'émigration italienne. Hein. Il y a eu aussi beaucoup d'émigrations espagnoles, et les Espagnols, eux, étaient spécialisés dans le commerce du chocolat, les Catalans, qui venaient ici par le port, hein, toujours, et aussi les oranges, les citrons, les agrumes, hein, de l'Espagne, qui venaient en bateau, là aussi, qui arrivait, qui était une des groupes.
Vous dites dans votre livre que c'était une partie de l'entrepôt, hein, de Marseille, oui. Quoi, des produits qui venaient d'un peu partout. Hein.
Tout à fait, cette rue, elle est liée effectivement, encore une fois, au port de Marseille, c'est-à-dire aux échanges, hein, au commerce que le port, dès le XVIe siècle, en vérité, alors même que la rue n'est qu'un chemin, se développe d'une manière très, très, très importante. Hein. Et puis arrive ensuite Louis XIV qui fait du port de Marseille un grand port international en permettant aux marchés étrangers de s'y installer sans payer de taxes, etc. Donc ça se développe énormément. Et la rue d'Aubagne, elle a cette particularité, c'est qu'elle est près du port, mais aussi elle part sur l'intérieur, toute la campagne marseillaise. C'est-à-dire qu'au fond, elle est un lieu d'échange entre ceux qui arrivent du port, les grands bateaux qui arrivent du port avec leurs marchandises d'Afrique, d'Espagne, d'Italie, etc. Et en même temps, elle charrie de l'intérieur avec des charrettes, etc. Ben, tout ce qui fait à l'époque la campagne marseillaise et ses alentours, c'est-à-dire les olives, la vigne, voilà.
Ah, che meraviglia, sembra di essere a Marsiglia, c'è un'enorme parapiglia che ricorda la quadriglia, ta 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 ta. Qualcuno, Fantomas, vestito da cane, si aggira su e giù. Qualcosa rimane, c'è solo più il vento che legge il giornale, di colpo verrà, domani verrà, gratis le nuove novità, gratis le nuove nudità. Ta 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 ta, c'è ancora da ridere nell'intimità, c'è ancora da fingere, a che delirio, che scomodità, gratis, con che facilità, zara 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 zara, prima, durante, dopo, ma c'è ancora da leggere due passi più in là, a gratis, nessuno lo sa. Via da questa mischia c'è qualcuno che cincischia, ma la storia se ne infischia. Piacente, scusami, non posso venire da questa città, mi lascio irretire, Marsiglia lo sai, Marsiglia è Marsiglia, e gratis sarà la sua infedeltà. Ah, rata rata rata, gratis, la gente arriverà, za 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 ra, za za ra, gratis, le nuove nudità. C'è ancora da leggere, due passi più in là, ah, gratis, nessuno lo sa.
Ici, il y avait pas mal de combats de boxe, on parlait pas mal de ce sport. Et donc au niveau 33, il y avait un célèbre boxeur de l'époque qui s'appelait Kids Francis, dans les années 20, qui va ouvrir un bar. Voilà, donc c'est ici à l'angle...
C'est le bar qui faisait le coin entre la rue d'Aubagne qui est là et la rue de l'Académie qui part
aujourd'hui, c'est un coiffeur.
Voilà, c'est un coiffeur. Oui, après les choses ont beaucoup changé évidemment. Alors effectivement, la rue populaire du début du XXe siècle, de la fin du XIXe siècle, elle reprend au fond tout ce qui fait la vie populaire de l'époque, et notamment le sport, le développement du sport. Et le sport, eh ben, il se développe dans les stades, du coup à l'extérieur de la rue, parce que la rue est trop petite pour avoir des stades, mais elle se développe aussi dans les bars, justement, dans les arrière-salles de bars. Ça devient des salles d'entraînement, ça devient aussi des salles de spectacle, donc aussi de combat, et notamment de la boxe, qui est le sport populaire par essence, au fond, au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Hein. C'est un sport qui se pratique facilement, qui n'a pas besoin de trop d'espace, et qui aussi est un sport un peu, qui valorise un peu les pratiquants. Donc c'est un sport populaire, c'est lié aussi au port, puisque beaucoup de dockers, hein, qui sont des hommes forts, vont pratiquer la boxe. C'est un lien direct, hein. Il y a beaucoup de champions qui sont des forts au hall, mais surtout dockers au port. Et du coup, ben, dans cette rue qui contient beaucoup de bars, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, qui contient des maisons qui sont très longues. Et donc les bars, encore une fois, ont souvent beaucoup d'arrière-salles, et qui permet du coup non seulement des réunions, des concerts, des bals, mais aussi du coup des vrais salles d'entraînement. On peut y mettre des rings, et du coup, ben, dans cette rue-là, à la fois parce qu'elle est populaire et à la fois parce que les bars ont la place de mettre des rings, eh ben, vont se développer beaucoup de salles de boxe, et de très bonnes salles de boxe. Kit Francis, qui va être une grande, grande, grande vedette de Marseille dans les années 30.
Et qui a un lien avec Spirito.
Qui est le cousin germain de la grande vedette du milieu marseillais des années 30, François Spirito, qu'on connaît pour son compagnonnage avec Venture Carbone, hein, Bonaventure Carbone, qui est une autre figure du milieu marseillais. Et Spirito et Carbone, c'est les fameux vedettes de Borsalino, hein, de Jacques Deray avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Donc c'est des figures qui vont beaucoup marquer, et à la fois ce quartier, hein, puisque c'est des figures du milieu, et que ce milieu est très présent dans cette rue dans les années 30, et aussi parce que effectivement le lien est fait avec ce champion de boxe qui doit beaucoup à son cousin, parce qu'en fait il gagne beaucoup de matchs qui sont en fait truqués par le milieu.
Alors on va traverser la rue de l'Académie et on va aller dans la partie plus calme de la rue d'Aubagne, en tout cas aujourd'hui.
Oui.
On est devant le 41 et ici il y avait le Café Bernard. Aujourd'hui c'est une sorte de pizzeria où on vend surtout de la pizza. Et donc durant la Commune, en 1871, il y avait les défenseurs de la République qui avaient l'habitude de se réunir. Et notamment, alors je ne suis pas sûr, vous allez me le dire, si Gaston Crémieux, le leader un peu de l'époque, était passé par là ou venait assister à ces réunions. C'est quand même une partie de l'histoire de France assez importante.
Oui, c'est ça. C'est qu'encore une fois, c'est cette rue populaire, dès le XVIIe, XVIIIe siècle. Hein, ça devient une rue très populaire, très, très passante, très commerçante. Et du coup, bah, encore une fois, ça attire un certain nombre de sociabilité populaire, notamment la politique. Les gens font de la politique dans les cafés et dans les grandes périodes de tension, en quelque sorte, que sont les différentes révolutions qu'on a connues au XVIIIe et XIXe siècle. Eh bien, ces bars sont des espèces de foyers de contestation, de réunions. Et puis, quand on se réunit dans les bars, eh bien, on boit. Et quand on boit, eh bien, on s'échauffe. Et donc, ça devient vite des foyers de contestation, de révolution. Et donc, oui, c'est un peu la rue d'Aubagne, et comme ça, une rue où les bars sont tellement nombreux et tellement populaires qu'on crée un peu cette ambiance révolutionnaire. Et Gaston Crémieux, qui est une des grandes figures, effectivement, républicaine de Marseille, hein, qui a été le grand meneur de la Commune de Marseille, à l'époque de la Commune de Paris, passe ici, effectivement, plusieurs fois, parce que sa sœur habite rue d'Aubagne. Et aussi parce que lui a ses, euh, à ses locaux en quelque sorte dans un autre bar mais plus loin vers la place Castellane. Et donc il passe par là et il passe souvent là parce qu'il est important pour lui d'avoir le soutien d'un certain nombre de gens et notamment de la garde nationale, enfin de gens qui sont effectivement aussi des républicains qui se battent pour la commune et donc il faut que l'Union permette de soutenir enfin sa cause, hein, sa cause de la République. Et donc et oui, il est effectivement souvent, sans habiter ici, il passe souvent ici, effectivement, c'est une figure au fond lui aussi de cette rue-là, et le symbole aussi un peu quelque part de cette rue populaire et à la fois politique, hein, très engagée au fond dans les différents mouvements que connaît la France.
Tout près d'ici, il y avait au 45, on a créé le premier conservatoire de musique, hein, de Marseille en 1821.
En fait, ces deux bâtiments là devant nous, là en fait ce n'était que l'espèce de cour, hein, l'entrée de la cour. Dans les sous-sols là, de ce qui a été effectivement le premier conservatoire de musique, on retrouve les fondations du premier couvent qui s'est trouvé là au Moyen-Âge. Et puis après, la Révolution est passée par là. C'est devenu à un moment la mairie, hein, une des trois mairies de Marseille, au moment de la Révolution. Et puis après, ça a été effectivement, comme c'est devenu la... Alors c'est devenu la mairie de Marseille parce que ça a été racheté à la fin du XVIIIe siècle par quelqu'un qui a fait fortune dans l'imprimerie, qui s'appelait Mossy, et qui est devenu un des maires de Marseille à l'époque. Quand il est devenu maire, il a installé les locaux de la mairie dans ses propres bâtiments, ce qui fait que ces bâtiments sont restés à la mairie de Marseille et que la mairie de Marseille a ensuite y a installé le conservatoire de musique au XIXe siècle, qui a été monté par un Italien, un compositeur qui s'appelait Thomas Barsotti, qui était aussi une figure, une espèce de personnage assez emblématique, hein, qui a monté ce conservatoire un peu tout seul, contre vents et marées, et qui a réussi à l'imposer, à le faire vivre. Et donc c'est devenu au fond aussi une salle de concert où la bonne société, en l'absence de théâtre, puisque le théâtre avait disparu en bas, et qui venait écouter le dimanche, hein, c'est ce que raconte Charleroux, le père d'Edmond de Charleroux, qui raconte le dimanche, il venait avec son père assister dans une salle qui était très basse de plafond, justement, qui datait du Moyen-Âge, à des concerts très, 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 très importants de musique classique.
Bon, on continue, on monte cette rue qui est à sens unique. Elle était déjà comme ça, non, à l'époque?
Oui, alors ça a été une grande bataille. Ça a été une grande bataille de la municipalité marseillaise, c'est d'imposer le sens unique aux Marseillais qui ne voulaient pas de sens unique. Et donc ça a été un rappel constant de dire que cette rue était en sens unique, parce qu'effectivement elle se trouve très vite très, très, très étroite. Hein. C'est au XVIIIe siècle quand Louis XIV essaie de réorganise la ville, il impose au fond des rues plus larges. Et on demande à ce que la rue d'Aubagne soit plus, qui est très commerçante et très passante, à ce qu'elle soit plus large, mais en fait les édiles de la ville s'y opposent, sous prétexte qu'au fond les immeubles sont très profonds, donc il n'y a pas besoin d'élargir la rue, enfin pour des raisons plus ou moins économiques au fond. Hein. Et donc elle reste comme ça assez étroite et du coup la circulation est vite difficile. D'abord avec les charrettes, hein, même avec les charrettes, on a des récits de chevaux, hein, qui encombrent, qui glissent sur le pavé, qui embarrassent la population. Et puis après, c'est le temps des voitures, des camions.
C'était non pavé ici, non?
Voilà, c'était non pavé. Alors un des grands combats aussi, c'était de pavé, puis après c'était de goudronner, hein, de mettre de l'asphalte, pour justement, comme c'était une rue en pente et qu'elle était... ensablé, en fait, c'était de la terre. Dès qu'il pleuvait, c'était très, très, très compliqué. Et puis les gens glissaient. Enfin, bon, bref, c'était quelque chose de... C'est une rue qui s'est développée, si vous voulez, un peu contre la modernité, quoi. À un moment où il aurait fallu l'agrandir, où il aurait fallu lui donner effectivement une apparence moderne, les choses ne se sont pas faites et du coup elle est restée comme ça, une rue très, 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 très étroite et mal commode et très compliquée à organiser, point de vue circulation.
Ah, voilà, il y a. Quand on regarde la balle, il faut y se mettre.
On revient maintenant à 2018 et on est au niveau de la statue d'Homère. C'est une sorte de place ici. Hein.
Oui, c'est ça.
Et on est face au portrait des disparus de l'effondrement du 63 et du 65 rue d'Aubagne. C'est un effondrement qui a eu lieu le 5 novembre, le matin, vers 9h, je crois. Et donc là, il y a un panneau avec ces portraits, ces 8 personnes. Donc aux 8 martyrs de la rue d'Aubagne, justice et dignité, toutes les victimes de l'habitat insalubre. Et c'est un peu le procès qui va se tenir à partir du 7 novembre et jusqu'au mois de décembre pour juger cette affaire. Et vous dites, vous, dans votre ouvrage, que 2018 marque un véritable tournant pour cette rue d'Aubagne qui a commencé son histoire au Moyen-Âge.
Oui, c'est ça, c'est que si vous voulez, on s'est beaucoup exalté, au fond, on a beaucoup vanté la rue d'Aubagne jusqu'à cette période-là, comme étant, au fond, cette rue populaire, exotique. C'est Jean-Claude Izot, l'auteur de romans policiers marseillais, qui a mis un peu cette rue à la mode en disant, ben voilà, c'est le symbole de la. Oui, de la mixité, à la fois du commerce. C'était la rue de la ville au fond. Marseille étant cette ville cosmopolite, cette ville grouillante, cette ville d'échange, de commerce. Et au fond, la rue d'Aubagne, c'était le symbole de cette Marseille-là. C'était le symbole de ces échanges, de cet exotisme. C'était des commerces et des restaurants africains, asiatiques, de toute origine. Et donc, il y avait cette façade un peu de cosmopolitisme, de mélange, de vie au fond joyeuse en quelque sorte. Mais bon, c'était qu'une image en réalité. Mais ça voulait dire quand même qu'il y avait une espèce de symbole ou de symbolique de la vie mélangée en quelque sorte. Et au fond, ça a un peu caché quand même l'idée que c'était aussi une rue très pauvre. Et que quand on rentrait dans les immeubles, déjà à l'époque, dès le 19e siècle, quand vous rentriez dans ces maisons, vous aviez des descriptions assez horribles quand même. Hein. C'est-à-dire des immeubles qui dataient du 18e siècle, qui ne connaissaient ni béton, ni modernité. Donc la promiscuité était très importante, les murs et les escaliers étaient très vieillots. Enfin, tout était quand même dans un état un peu lamentable. Et que cet exotisme, au fond, cachait un petit peu. Quoi. Et le fait qu'en 2018, cet effondrement ait lieu, tout d'un coup, on s'est quand même rendu compte qu'au-delà de cet aspect sympathique, exotique, etc., il y avait la pauvreté, mais il y avait plus que ça, il y avait l'insalubrité, et que ces maisons très anciennes, dont on voit encore là, pareil, toujours deux fenêtres, etc., c'était au fond c'était ce qu'on a appelé finalement des espèces de favelas améliorées au fond, hein, de bidonvilles verticaux, c'est ça qu'on a dit. C'est-à-dire qu'au fond, c'était peut-être très joli les commerces, la vie mélangée, mais c'était aussi beaucoup d'insalubrité et d'incommodité. Quoi.
Là, donc, on voit une affiche hein, qui est placardée sur un immeuble qui est fermé, qui est juste à côté du 63, là où tout s'est effondré. D'ailleurs, il y a un trou là à la place. On ne sait pas ce qu'on va en faire vraiment. Et là, donc, on voit une affiche où il y a écrit « Procès des effondrements de la rue d'Aubagne, 7 novembre, 18 décembre ». Donc cette année, ça va se tenir à ce moment-là. Dimanche 3 novembre à 13h, Notre-Dame-du-Mont, il y a une marche pour la justice et pour un logement digne. Et en dessous, il y a une affiche avec un point levé dans un cœur 6 ans après.
Oui, ce qui est enfin amusant, je ne sais pas si c'est le terme, mais ce qui est assez remarquable, c'est qu'au fond, on sent dans cette histoire aussi l'histoire de la rue. Hein, et on retrouve au fond cette espèce de revendication. Donc c'est aussi le reflet de ce qu'a été la rue, c'est-à-dire cette rue populaire où il y avait beaucoup de revendications, beaucoup de luttes sociales et politiques sont parties de cette rue, hein, de ces bars dont on parlait. Et c'est ce combat au fond pour la justice du logement, c'est aussi un peu le reflet de cette rue qui a toujours été dans le combat, dans la revendication et dans la volonté, au fond, de justice sociale. Au fond, ça rejoint un peu ça.
Alors on continue, donc on passe maintenant devant ce trou, hein, ce trou béant. Et à notre droite, là, derrière, c'est le domaine Ventre.
Oui,
c'est bien ça.
C'est ça. Alors, on a une entrée là par plus loin au 68. C'est donc un grand domaine qui donne sur la rue d'Aubagne, mais aussi sur d'autres rues adjacentes, qui est effectivement un ancien couvent, le couvent des Trinitaires.
Et qui c'est ici qu'on se trouve, pardon, dans le domaine un peu religieux de la rue d'Aubagne, c'est ça?
Oui, c'est ça. D'autant qu'on va arriver ensuite à l'église, qui a été construite à la fin du 19e. Et c'est effectivement tout ce domaine religieux. Il y a encore une église aussi par derrière. Après, le couvent en question a été racheté donc, par un marchand qui s'appelait Ventre, hein, et qui en a fait ses entrepôts, et c'est pour ça qu'on appelle ça le domaine Ventre. C'est le nom du marchand dont on. Voilà, là, l'entrée, c'est l'une des entrées de ces entrepôts là qui est.
Privé, quoi, on a l'impression, non?
Oui, c'est privé. Ce marchand avait racheté ce lot, c'est immense, hein, c'était un immense couvent avec des jardins, etc. Donc c'est très grand. Et puis il en a fait des entrepôts qui ont été aussi très grands et qui sont aujourd'hui, tous ces entrepôts ont été transformés en immeubles, en habitations. Et donc c'est une espèce de grande résidence privée.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la partie riche de la rue d'Aubagne?
Non,
ici,
non, non.
Parce que les gens qui habitent ici, c'est un peu les bobos, non, d'aujourd'hui?
Oui, c'est les bobos, mais ça l'a pas toujours été, en fait. C'est un phénomène très récent, ça.
Et c'est eux qui ont demandé à fermer le...
Oui, ça l'était, ça a toujours été.
Parce que c'est une ruelle, quoi.
Oui, c'est une ruelle privée, quoi. Oui, c'est une ruelle, c'est-à-dire c'est effectivement vous avez trois ruelles, puisqu'il y a une qui part par devant. Oui, c'est des ruelles privées, mais après c'est un domaine privé. C'était le domaine Ventre, c'est-à-dire de ce marchand qui a fait ses entrepôts. Après, si vous voulez, le côté bobo, il est très présent là, dans ce domaine, mais comme vous le voyez, il n'est plus tellement dans la rue. Et puis surtout, en réalité, le côté un peu bourgeois de la rue, il était en bas. En fait.
Loin du bonheur et des îles, où la misère prend ses aises, près du haut loulou pressé, se console avec des scies. Plus de chemin, plus de repères que des raccourcis. Pour la plupart piégés. Quand se nourrir est un film. Nourrir les chats ton rôle, la rue te donne quelques scènes, tirées de mauvais scénarios. Pour un coup, elle peut te fournir tous les plans possibles. Mais pour demain, qui sait. Je veux du soleil. Je veux du soleil du pays. Je veux de soleil. Sur le bitume t'en chéris. Rien de neuf dans ma rue. Juste une allée d'aller à pas d'avenir. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Rien de neuf dans ma rue. Juste une allée d'aller à pas d'avenir. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Quand on n'a rien d'autre à faire, on la pratique par défaut. Y'a que ceux qui n'ont pas touché le fond qui en parlent comme d'un trophée. Ni de première, deuxième place ici. Plus y est, plus tu perds. Quand elle est tout ce que l'on a, on rêve d'autre part. Parce qu'elle a tout ce que l'on aime, même éloigné d'elle, on l'aime. Elle nous grandit, nous en dit long sur ce qui est à venir. Tout pour mieux la quitter. Je veux du soleil. Je veux du soleil du pays. Je veux de soleil. Sur le bitume t'en chéris. Rien de neuf dans ma rue. Juste une allée d'aller à pas d'avenir. Qu'est-ce qu'elle y connaît?
On va bientôt finir donc notre balade dans cette rue d'Aubagne. On a commencé tout en bas du côté de la quincaillerie l'Empereur. Et là, on est devant le 86 jusqu'au 90. C'est un ensemble. Et donc, l'origine de cet ensemble d'immeubles avec même une église, l'origine est religieuse. Donc, hein, il faut remonter au 19e siècle.
Oui, c'est une église du 19e siècle qui a donc été construite dans un style gothique par un prêtre qui a, de sa propre initiative, a décidé de créer cet ensemble, qui est un ensemble, donc l'église, et à côté ce qui était le couvent, hein, une espèce de cloître dont on a encore quelques éléments là, de fenêtres. C'était un prêtre dont le rêve était effectivement de bâtir sa propre église, de créer et de...
Alors, il s'appelait comment déjà?
Alors c'était François-Xavier Coulin, il s'appelait.
Voilà. Et il avait surtout un public féminin, voilà, qui venait à ses messes. Ça n'a pas fait jaser un peu?
Voilà, alors il a réuni beaucoup d'argent pour acheter le terrain, hein, et puis pour construire cette église, qui est quand même une grande église, hein, c'est pas une chapelle, c'est quand même un truc assez monumental.
On me dit qu'il y a un artiste aujourd'hui qui a son atelier.
Ah bon?
Oui. Qui a racheté ou qui loue.
C'est à la mairie en tous les cas.
Bah, il le loue, ouais, paraît-il.
Ok. Parce que la mairie doit en faire quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. Et donc ce prêtre a réuni de l'argent grâce au fond à une espèce de public féminin qui visiblement il charmait beaucoup, qui l'impressionnait, qui réussissait à séduire au fond. Et d'ailleurs on l'a accusé d'avoir un peu détourné pas mal d'argent, parce qu'au fond il a beaucoup voyagé et avec cet argent-là, enfin, l'argent de dames bourgeoises de Marseille en fait, hein, pour l'essentiel. Et donc il a été un peu accusé de profiter de cette manne financière pour lui-même. Et puis quand il est mort et qu'il a fallu décider qui allait avoir cette église, puisque c'était à lui, il y a eu une enquête de la justice et on a prouvé que non, tout l'argent qu'il avait reçu de ces charmantes bourgeoises marseillaises, il l'avait mis dans son église et dans son couvent. Et donc il a pu en fait léguer cet ensemble à un ordre religieux qui s'est installé, qui a fondé son couvent à la fin du 19e siècle et qui a notamment eu pour supérieur un homme qui s'appelait le révérend Père Gauthier, qui a eu une certaine aura à Marseille et qui a été chassé de son domaine donc ecclésiastique en quelque sorte à la fin du 19e siècle, quand la République a expulsé les congrégations religieuses de leur domaine s'ils ne faisaient pas allégeance à la République, ce que le Père Gauthier a refusé de faire. Et du coup, il a été chassé, mini militari de son domaine. Et il y a eu toute une scène, hein, à l'époque où les policiers sont arrivés avec une hache pour ouvrir l'église, puisque le curé ne voulait pas ouvrir. Et donc, ils ont défoncé la porte à la hache devant un public. Toute la rue s'était réunie devant l'église en criant mort au curé. Et puis, il a été expulsé et il est parti, du coup. Voilà.
Il y aura la salle Masno aussi au 88. Hein. Voilà. Donc une salle qui va accueillir des spectacles, mais aussi des meetings politiques.
Voilà, c'est ça, parce qu'une fois que les curés ont été expulsés de ce domaine, donc de cette église et de ce couvent, bien la République a s'est approprié le domaine et on a fait, enfin on l'a loué, hein, bon bref, c'est devenu effectivement, l'église a été en fait coupée en trois portions. Le premier niveau a été transformé en salle de spectacle, le premier niveau en salle de cinéma, le second niveau en salle de spectacle, de réunion, et le troisième niveau est resté un lieu de culte en fait. Hein. Et donc dans cette salle va se produire au fond, parce qu'à l'époque il n'y avait pas énormément de salles populaires, hein. Il y avait des grands théâtres à Marseille mais il n'y avait pas de petites salles populaires comme celle-là, et dans cette salle va se Bah oui, se réunir à la fois des meetings politiques, à la fois aussi des combats de boxe. Hein. Et puis aussi, il va y avoir beaucoup de concerts. Hein. Et les petits artistes débutants vont être dans cette salle. Et Charles Trenet va venir s'étraîner justement dans cette salle. Il va y avoir beaucoup de jeunes artistes qui vont ensuite faire une carrière, qui vont passer dans cette salle qui était en fait assez mal commode parce qu'elle était mal insonorisée et était pas très agréable pour les artistes. Mais malgré tout, bah, c'était une salle et c'est là aussi que vont passer les artistes de théâtre des années 40, notamment avec Léo Sauvage, qui est un journaliste très connu, qui est un juif et qui arrive à Marseille parce qu'il est chassé de Paris à cause de la guerre. Et il va lui organiser dans cette salle des réunions théâtrales sous le nom de Compagnons de la Basoche. Il va créer sa troupe théâtrale avec des gens qui viennent aussi de Paris, des artistes divers, des acteurs multiples. Et ça va comme ça être aussi un lieu de culturel très important au fond, dans cette rue qui est très populaire, qui est encore une fois un symbole de ce peuple de l'instant qui n'a pas forcément beaucoup de culture, qui préfère la boxe au théâtre. Et bien malgré tout, il va y avoir aussi cet aspect culturel, cet aspect intellectuel qui va se développer curieusement au fond dans ce qui est une église au départ.
Oui, et dans les années 30, à la fin des années 30, quand le fascisme commence à monter, et aussi pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir aussi des meetings de l'extrême droite ici, dans cette salle, qui pouvait comprendre, je crois, 400 personnes, c'était pas très confortable. Mais enfin, il y avait des meetings de ces factions, de ces partis-là, et aussi d'autres meetings peut-être d'opposants. Hein.
Oui, c'est ça. C'est comme si c'était une salle pour la musique et pour le théâtre qui n'était pas très commode. Au fond, ça correspondait plus à des salles de meeting. C'est-à-dire qu'il fallait parler très fort. Les gens n'entendaient pas forcément bien au fond de la salle, mais c'est pas grave. Voilà, quand vous êtes à une reine politique, bah, vous participez. Même si vous n'entendez pas tout ce que dit l'orateur, bon ben voilà, c'est ça. Et donc c'était plus approprié pour ce genre de meeting. Et c'est ce qui fait au fond la richesse de cette rue et qui en fait le symbole, c'est que c'était tout, c'était à la fois la culture, le cinéma, la boxe, le sport. Donc plus haut, hein, si on allait jusqu'en haut, on verrait la maison qu'habitait le fondateur de l'Olympique de Marseille, René de Montmirail. Et donc voilà, c'est ce mélange-là et Montmirail, ben, c'était un aristocrate, donc vous aviez ce côté aristocrate, vous aviez c'est ce boxeur lié au milieu. Vous aviez aussi pas mal d'artistes au fond parce que c'était un quartier quand même assez populaire et donc pas trop cher. Donc vous aviez ces artistes, vous aviez ces curés dont plusieurs étaient quand même des intellectuels, des théologiens assez connus.
Hein. Il y avait eu un cinéma aussi,
oui.
Ici le Central.
Voilà, c'est ça. Il y avait dans cette église, il y avait le Central qui est devenu le Ciné-Club aussi dont parle Paul Lombard dans son livre, qui est devenu le Ciné-Club de Marseille dans les années 50, où elle, pareil, qui a vu passer du coup pas mal de cinéastes qui sont venus parler de leurs films, d'acteurs qui sont venus parler de leurs films. C'est cette espèce de mélange qui a fait la richesse de cette rue et qui, comme on le voit aujourd'hui, ben, effectivement, là pour le coup on peut dire que c'est terminé, ces salles sont fermées, la culture est plus tellement présente hein, dans la rue. Je cherche un endroit. Il y avait à une époque, il y avait beaucoup d'artistes, d'ateliers d'artistes d'ailleurs. Dans les immeubles qui sont effondrés, parmi les victimes, il y avait deux personnes qui étaient des artistes. Donc voilà, ça avait généré tout ça. Bon, ben aujourd'hui, tout est pratiquement fermé. Et à part le bas qui restait un peu commerçant, on voit que là, beaucoup de choses ont fermé. Les restaurants, les bars sont devenus de plus en plus rares, hein, enfin au moins à ce niveau de la rue. Et au fond, c'est devenu quelque chose d'assez passant, mais au mauvais sens du terme. C'est-à-dire que les gens vraiment là ne font que passer juste d'un endroit à l'autre et ne s'arrêtent pas ou ne s'immobilisent pas devant telle ou telle boutique, puisque au fond les boutiques, ben, il n'y en a plus beaucoup.
Merci Vincent Kivy. Donc je rappelle que vous avez écrit un ouvrage sur la rue d'Aubagne qui est sorti en mars 2024. Au revoir.
Au revoir, merci à vous.
Vous venez d'écouter Voix Marseillaise, une émission de David Hacoum. Merci à Sidi de Radio Galère et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Mmh.